Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Communiquer avec les animaux, nouvelle édition, de Laila Delmonte, est un ouvrage de témoignages et de réflexions consacré à la communication animale intuitive. L'autrice, connue comme communicatrice animale, y rassemble des expériences personnelles afin d'exposer sa manière de percevoir le vécu d'animaux rencontrés dans des contextes variés. Le livre ne se présente pas prioritairement comme un manuel technique ni comme une étude scientifique du comportement animal. Il défend plutôt une approche fondée sur l'attention intérieure, l'empathie et l'intuition que Delmonte décrit comme une transmission subtile des images de sensations, d'émotions ou d'impressions. Son propos vise aussi à modifier le regard porté sur les animaux. Envisagés comme des êtres sensibles ayant une expérience propre de leur environnement, de leurs relations et de leurs difficultés. La nouvelle édition s'adresse donc autant aux personnes curieuses de cette pratique qu'aux lecteurs souhaitant approfondir leur lien avec les animaux. Les récits priment sur la démonstration expérimentale et invitent à recevoir cette perspective avec discernement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une communication intuitive présentée comme une écoute au-delà du langage. Le point de départ du livre est une distinction nette entre communication intuitive et langage verbal ou observation comportementale. Laila Delmonte décrit une relation d'esprit à esprit dans laquelle l'humain chercherait à recevoir des informations depuis le point de vue de l'animal. Selon cette perspective, les contenus perçus ne prennent pas nécessairement la forme de phrases. Ils peuvent surgir sous forme d'images mentales, de sensations corporelles, d'émotions, d'odeurs ou d'impressions associées à un lieu et à une situation. Cette pluralité des canaux est importante car elle explique pourquoi l'autrice accorde une place centrale à la disponibilité intérieure plutôt qu'à un code fixe à apprendre. L'enjeu n'est pas de traduire mécaniquement un aboiement ou une posture, mais de rester attentif à ce qui est ressenti sans l'interpréter trop vite. Cette thèse situe l'ouvrage dans le champ des pratiques intuitives et spirituelles, non dans celui d'une méthode scientifiquement validée. Le lecteur gagne donc à distinguer le témoignage d'expérience de la preuve empirique. Cette réserve ne retire pas l'intérêt du livre pour les personnes désireuses de réfléchir à la qualité de leur attention envers un animal. Mais elle précise la nature de sa proposition. Deuxièmement, le calme intérieur et la suspension des projections comme condition de la démarche. Delmonte insiste sur une exigence méthodologique qui traverse ses récits faire le vide. Se rendre disponible et éviter de confondre ses propres préoccupations avec celles de l'animal. Dans son cadre, une communication de qualité dépend moins d'une volonté intense de recevoir un message que d'un état de calme et de réceptivité. L'autrice met particulièrement en garde contre la projection. Un gardien peut attribuer à son animal sa tristesse, sa peur, ses attentes ou son interprétation d'un problème, puis prendre cette attribution pour une information reçue. Reconnaître ce risque constitue l'aspect le plus prudent de l'approche décrite. Cela impose de traiter toute impression comme une hypothèse à confronter aux faits observables, à l'histoire connue de l'animal et, lorsque sa santé est en cause, à l'avis d'un vétérinaire. Le livre valorise ainsi une posture d'humilité, ne pas prétendre tout savoir, accepter l'incertitude et différer les conclusions hâtives. Même un lecteur sceptique peut y trouver une invitation utile à ralentir avant de réagir à un comportement. La démarche devient alors un exercice d'attention relationnelle, plutôt qu'un moyen de substituer une intuition personnelle à l'observation, aux soins ou à l'expertise professionnelle. Troisièmement, la sécurité physique et territoriale avant la recherche d'un lien affectif. Un enseignement concret mis en avant dans les sources consacrées à l'ouvrage est la priorité donnée au sentiment de sécurité. Delmonte invite à ne pas réduire le bien-être animal à l'affection humaine. Un animal ayant vécu une séparation, un abandon, une douleur ou un environnement instable peut d'abord avoir besoin d'un cadre prévisible, de ressources accessibles et d'une protection adaptée à son espèce, avant de pouvoir investir pleinement une relation affective. Cette idée est particulièrement pertinente parce qu'elle déplace le regard du désir humain de rassurer vers les conditions matérielles et comportementales de l'apaisement. Nourriture, repos, espace, repères, absence de menaces et respect du territoire forment une base plus concrète que les gestes affectueux seuls. Dans le livre, cette priorité s'inscrit dans une vision où les réactions difficiles d'un animal peuvent exprimer un vécu de vulnérabilité. Elle ne doit toutefois pas conduire à expliquer tout trouble par un traumatisme supposé. Un changement de comportement peut relever de causes médicales, environnementales ou éducatives qui nécessitent une évaluation appropriée. La valeur pratique du principe réside donc dans son articulation avec les soins vétérinaires, l'observation du comportement et, si nécessaire, l'accompagnement par un professionnel compétent. Quatrièmement, des récits d'expérience pour reconsidérer la sensibilité et la conscience animale, la forme du livre compte autant que sa thèse. Laila Del Monte s'appuie principalement sur des histoires et des expériences de communication pour donner à voir des animaux comme des êtres dotés de sensibilité, d'émotion et d'une perception singulière de leur monde. Cette construction narrative permet de rendre son propos accessible au lieu de proposer un système théorique abstrait. L'autrice montre ce que ses convictions impliquent dans des situations concrètes de souffrance, de recherche, de relations ou de changement de comportement. Elle veut ainsi faire entendre une voix animale qui, selon elle, reste trop souvent ignorée. Cette orientation éthique constitue l'un des intérêts majeurs de l'ouvrage. Elle encourage le lecteur à considérer les animaux autrement que comme des objets d'affection, de performance ou de possession et à s'interroger sur leurs besoins propres. En revanche, le choix du témoignage limite la portée démonstrative du livre. Une expérience relatée avec sincérité ne permet pas à elle seule de vérifier la généralité ou l'exactitude d'une pratique intuitive. Les lecteurs attirés par une argumentation scientifique trouveront donc peu de protocoles ou de données contrôlées. Ceux qui apprécient les récits personnels y verront plutôt un cadre de réflexion sensible sur la responsabilité humaine envers les animaux. En dernier lieu, un livre d'initiation par le témoignage plutôt qu'un protocole d'apprentissage. Le positionnement réel de communiquer avec les animaux mérite d'être clarifié pour éviter une attente mal ajustée. Plusieurs avis de lecteurs soulignent que l'ouvrage contient avant tout de nombreux témoignages et descriptions d'expériences, plutôt qu'un protocole détaillé permettant de s'exercer étape par étape. Cette caractéristique est cohérente avec le projet de Del Monte, partager un parcours, expliquer l'esprit de sa pratique et susciter une autre attention aux animaux. Le livre peut donc nourrir une première découverte de la communication animale, mais il ne remplace pas un guide structuré proposant des exercices gradués, des critères de vérification ou des outils de suivi. Cette limite explique que certains lecteurs, venus chercher une méthode immédiatement applicable, se déclarent déçus malgré leur intérêt pour le sujet. Elle peut aussi être comprise comme une conséquence de la thèse défendue si cette intuition est une faculté à retrouver. Elle ne se transmet pas entièrement sous la forme d'une recette. Pour tirer un usage réaliste de la lecture, il convient d'en faire un support de réflexion et d'observation, non une promesse de résultat. L'enseignement pratique le plus solide reste d'améliorer les conditions de vie, l'écoute et la connaissance concrète de l'animal. En conclusion, communiquer avec les animaux nouvelle édition conviendra surtout aux lecteurs intéressés par la relation humain-animal, les pratiques intuitives et les témoignages de terrain. Les gardiens d'animaux, les personnes engagées dans leur bien-être ou les curieux des approches spirituelles y trouveront une perspective centrée sur l'empathie, le respect de la nature propre de l'animal et l'attention à ses besoins de sécurité. L'ouvrage peut également intéresser les professionnels du monde animal comme matériau de discussion sur les représentations affectives et éthiques qui entourent leur métier, sans se substituer à leur méthode clinique ou comportementale. Son bénéfice intellectuel principal est d'inviter à décentrer le regard humain avant de chercher une réponse extraordinaire. Il encourage à considérer les conditions de vie, les émotions possibles et la vulnérabilité des animaux. Sa limite est tout aussi nette, le livre repose sur des récits personnels et sur une conception intuitive de la communication qui ne relève pas d'une validation scientifique. Établi, il ne constitue ni un traité de comportement animal ni un manuel technique complet. Ce qui le distingue d'ouvrages plus prescriptifs est précisément cette alliance de confidence, de sensibilité et de réflexion éthique. Del Monte ne propose pas seulement des procédés, elle défend une manière de se rendre plus attentif. Lu avec ouverture mais aussi avec esprit critique, le livre peut approfondir une réflexion responsable sur le lien aux animaux. Si vous souhaitez soutenir Laila Del Monte, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.